J'aimerais parler ce matin sur le combat entre la chair et l'esprit. Dans Galates chapitre 5, lisons verset 13. « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Mais ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'esprit, nous marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Amen. Nous terminons donc une série de messages aujourd'hui sur la chair opposée à l'esprit. On l'a vu à travers tout l'Ancien Testament, de nombreux exemples, où il y a une opposition marquée entre ceux qui veulent marcher par la chair et ceux qui veulent marcher par l'esprit. La dernière fois, nous avons parlé de l'enseignement de Jésus sur ce sujet, avec Nicodème, qui était un pharisien, chef des Juifs, mais qui vivait selon la chair. Et Jésus va lui expliquer la nouvelle naissance, comment faire pour naître de nouveau, naître de l'esprit et vivre par l'esprit. Et aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter donc sur, pour clôturer cette série, sur l'enseignement de Paul. De Paul qui va parler de la chair et l'esprit, de ce combat même dans l'Église qui existe encore aujourd'hui. Le premier point, c'est au verset 13 jusqu'au verset 15. C'est la liberté et la chair. Parce que nous sommes tous nés pécheurs et esclaves du péché, il ne faut pas oublier d'où le Seigneur nous a tirés. Je lisais le témoignage encore dernièrement d'un Corse. Ce n'est pas Antoine Graziani. Il avait entre 16 et 32 ans, il a connu le monde de la délinquance. Il vivait dans l'alcool, la vente de drogue, il est passé à la cocaïne, puis à l'héroïne, puis il faisait de la fraude à la carte bleue, il faisait des vols, des cambriolages, des escroqueries multiples. Et puis un jour, avec des connaissances à lui, ils ont eu le projet de cambrioler le trésor national où il y avait des parchemins de grande valeur. Et ça valait plusieurs milliers d'euros et il savait comment tirer profit de cela. Alors il a fait son forfait et puis en volant les parchemins, il a pris aussi un vieil évangile de 1818, évangile de Luc, de l'imprimerie du roi, et il l'a pris sur les étagères, il l'a volé avec. Et lorsqu'il est arrivé dans son lieu où il cachait tout son matériel, eh bien, il s'est mis à lire ce vieil évangile. Mais vous voyez, l'évangile, il était vieux, mais le message, il est toujours d'actualité, gloire à Dieu. Eh bien, figurez-vous qu'en lisant l'évangile qu'il avait volé, il a rencontré le Seigneur Jésus ce soir-là. Parce que Jésus, quand on lit les évangiles, on voit qu'il est venu pour les perdus, pour les voleurs, pour les tricheurs, pour les plus bas tombés, pour ceux qui étaient justement dans la marginalité. Et ça a touché son cœur de voir ce Jésus qui parle des paroles qui ne sont pas comme les hommes, qui vit cette vie simple de l'amour de Dieu. Et il s'est converti en lisant tout simplement l'Évangile. Personne ne lui a prêché qui est Jésus, comment on fait pour se convertir, qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance. Simplement en lisant la parole de Dieu, en fait, c'est comme si le Seigneur s'est révélé à son cœur, lui a montré qu'il était pécheur, et là il a commencé à pleurer sur ses péchés. Et il a reconnu que maintenant il fallait qu'il change de vie, donc il est allé rapporter tout ce qu'il avait volé, et il est allé trouver une église, rencontrer un pasteur, et il a expliqué sa démarche, son expérience, et puis il a été enseigné, il a été baptisé. Aujourd'hui, il est pasteur, il est serviteur de Dieu, il sert le Seigneur dans l'église de Saint-Étienne. Aujourd'hui, c'est le pasteur Jean-Marc Lamotte. Et c'est une personne que j'ai connue personnellement, donc, il y a bien des années, quand il était encore en Corse. Et véritablement, il y a eu une transformation radicale dans sa vie. C'est extraordinaire ce que le Seigneur... Mais il ne faut pas oublier d'où le Seigneur nous a tirés, parce que nous étions tous pécheurs et nous étions esclaves de ce péché. Ce jeune homme, entre 16 et 32 ans, il était esclave d'un péché qui le dominait. Et une fois libéré, il a pu faire l'objectif de Dieu pour sa vie. Mais tant qu'on est enchaîné dans le péché, ce n'est pas possible. Le péché, c'est une chaîne tellement puissante que rien ne peut la briser humainement. Vous pouvez essayer par vos efforts, vous pouvez essayer de mener une vie qui va plaire à Dieu par vos capacités, mais vous n'y arriverez pas. Parce que le péché, il n'y a que dans la grâce, il n'y a que dans l'amour de Dieu qu'il peut être brisé. Jésus nous l'a dit, si donc le Fils, c'est-à-dire si Jésus vous a franchi, vous serez réellement libre. Jean 6, 36. Donc Jésus nous donne une vraie liberté. Alors nous sommes libérés du péché, gloire à Dieu, mais pourquoi faire? Parce que si nous utilisons cette liberté mal, nous passons à côté du plan de Dieu. Cette liberté peut être mal utilisée. C'est ce que dit Paul ici dans notre texte. « Si ne faites pas de cette liberté, au verset 13, un prétexte pour vivre selon la chair. » Ça veut dire que les chrétiens sont libérés, nous le sommes, mais nous pouvons mal utiliser notre liberté. Parce que nous sommes toujours libres et responsables de nos choix. Alors, qui peut dire ce matin qu'il fait toujours des bons choix? Est-ce que parfois nous ne nous laissons pas justement inspiré par des désirs charnels? Eh bien ça, c'est quelque chose sur lequel nous devons apprendre à veiller. Voyez, la parole de Dieu nous parle d'un homme qui s'appelait Samson. Samson est l'enfant du miracle. Il est né dans une famille, la femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Et ils ont prié Dieu, et Dieu est intervenu. Il y a eu le miracle de la naissance de Samson qui devait être mis à part pour Dieu. Et effectivement, au début, tout se passait bien. Mais les années passant, en tout cas chez Samson, ce qu'on remarque, c'est qu'il a fait des choix qui étaient inspirés plus par la chair que par l'esprit. Autant quand il était rempli du Saint-Esprit, il pouvait remporter de grandes victoires et combattre de nombreux Philistins et être vainqueur. Mais souvent, son cœur était conduit par la chair, au moins à trois reprises. À trois reprises, en fait, avec trois femmes différentes, il a laissé les sentiments de son cœur, des sentiments charnels, des sentiments terrestres, et c'était des femmes qui étaient du peuple ennemi du peuple de Dieu, c'était des Philistines. Et à chaque fois, il aimait une Philistine, il allait avec elle, ça se passait mal, il avait des conseils de ses parents, mais il recommençait. Ses choix étaient charnels. Deuxième fois, il va encore avec une femme des Philistins, ça se passe à nouveau mal, et il recommence une troisième fois, et la dernière, c'était Delila, c'est celle qui va causer finalement sa perte. Parce qu'il est averti une fois, il est averti deux fois, mais il continue dans ses choix charnels. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Ben, Dieu nous laisse poursuivre notre route. Et avec la dernière femme, Delila, qui lui a donc fait couper ses cheveux, il a perdu sa force, et il s'est retrouvé en prison. Et il a perdu finalement ce que Dieu lui avait donné par ses choix charnels. On sait qu'à la fin de sa vie, il a accompli un dernier exploit. Parce que ses cheveux avaient repoussé, et il a poussé les deux colonnes du temple qui s'étaient effondrées sur tous ces Philistins qui étaient rassemblés pour se moquer de lui. Mais Néanmoins, on voit que ces choix charnels, pourtant c'était un croyant, l'ont conduit dans des impasses, dans une prison, dans un lieu où il a été malheureux, parce qu'il ne soumettait pas ses choix à la volonté de Dieu. La liberté, nous l'avons, mais nous sommes responsables de nos choix. La vraie liberté, en fait, pour nous, qu'est-ce que c'est ? La vraie liberté, c'est d'être esclave de Christ. C'est ce que Paul enseigne. Celui qui est esclave de Christ, il est réellement libre. Par exemple, c'est dit dans la parole que l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Donc nous sommes des hommes libres à la base, nous ne sommes pas des esclaves d'un maître dans ce monde. Mais il dit, en fait, vous avez un autre maître, c'est Dieu, c'est Christ, et vous êtes des esclaves de Christ. Mais en même temps, nous sommes libres si nous sommes esclaves de Christ, parce que nous sommes libres de nous-mêmes, libres de cette passion charnelle. Et la liberté, c'est ça. La liberté, c'est donc de faire la volonté de Dieu pour notre vie. Si nous passons à côté du plan de Dieu pour notre vie, nous ne sommes pas vraiment libres. La liberté, c'est servir les autres. La liberté, c'est faire la volonté de Dieu. La liberté, ce n'est plus la société qui nous impose ses désirs, ses volontés. La liberté, c'est de faire ce qui plaît à Dieu plus que ce qui plaît au monde. C'est ça la vraie liberté, la liberté d'être chrétien. Mais si vous voulez plaire au monde tout en étant chrétien, alors vous vous mettez sous un autre système de valeurs et vous allez être très malheureux. C'est pourquoi quelquefois des chrétiens sont très malheureux, parce que c'est la chair qui domine et donc ils veulent plaire au monde plus qu'à Dieu. Et un chrétien ne peut pas être heureux dans ces circonstances. Parce que le monde a un autre système de valeurs, c'est basé sur la richesse, sur l'apparence, sur le confort, sur le bien-être, etc., la gloire des hommes. Mais toutes ces choses, Jésus les considère comme secondaires, futiles. Tandis que Jésus nous enseigne à nous attacher aux choses spirituelles, célestes. Et le bonheur, il est là. Paul dit, par exemple, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Ne vous laissez pas modeler par la société sa pensée, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence, par l'Esprit de Dieu, par tout ce qui est dit dans la parole. C'est comme ça que nous serons libres. Beaucoup de gens aujourd'hui se croient libres autour de nous, mais ils sont en réalité esclaves, esclaves du péché, esclaves de la mode, esclaves de la manière de penser, esclaves de cette vaine manière de vivre. Donc, c'est ce que dit ce texte. Ne faisons pas de cette liberté, nous qui l'avons au moins, nous l'avons en Christ, ne retombons pas sous l'esclavage en faisant comme le monde fait, parce qu'il est sous d'autres paramètres. Et il dit ceci, rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. C'est comme cela que nous sommes libres, en servant les autres, en faisant la parole de Dieu, en aimant nos frères et nos sœurs. Donc Dieu remplit notre cœur de son amour pour nos frères, pour nos sœurs. Oui, celui qui n'est pas rempli de l'amour de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire ? Verset 15, « Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres. » Ah oui, si on n'est pas rempli de l'amour de Dieu, ça va mordre. On va devenir comme des pitbulls évangéliques. Ça, c'est terrible. Un pitbull évangélique, il mord. Il est agressif. Bien, que le Seigneur nous fasse grâce et nous délivre de cette volonté de mordre, d'être agressif. Vous savez qu'un pitbull doit obligatoirement être, quand il sort, quand vous le sortez à l'extérieur, vous devez lui mettre une muselière. Eh bien, peut-être que ça serait bien aussi que, pour les chrétiens, on ait une muselière spirituelle pour ne pas mordre nos frères et nos sœurs. Oui, la muselière spirituelle, c'est l'Esprit qui va canaliser notre bouche afin de parler la parole de Dieu. Un couple avait acheté un chien, un petit chien, et en grandissant, ce chien était devenu très agressif. C'était une race de petits chiens. Il est resté petit, mais il était agressif, et particulièrement envers les gros chiens, les chiens plus grands que lui, il les attaquait. Alors, il était tout de suite en difficulté, évidemment. Il attaquait les plus gros. Alors, les propriétaires l'ont amené chez le vétérinaire et lui ont dit « Mais quel est notre problème avec notre chien ? Il attaque tous les gros chiens. » Et le vétérinaire a observé, en fait, dans les yeux de ce petit chien, il y avait une malformation qui fait qu'il voyait en petit les autres chiens. Il les voyait en petit. Donc, il a été opéré. Et une fois qu'il a vu les choses comme elles étaient, il est resté tranquille. Il a retrouvé sa docilité. Et voilà, c'était simplement une question de vision. Mais peut-être c'est vrai pour nous aussi. Si le Seigneur ne fait pas une opération dans nos yeux, eh bien nous allons voir les choses à l'envers. Et nous allons peut-être avoir une agressivité ou une manière, un comportement qui n'est pas correct, parce qu'on a besoin de recevoir la vision de Christ. Si on ne l'a pas, frères et sœurs, on va être agressif comme ce petit chien. Il avait besoin d'une opération, mais que le Seigneur nous fasse grâce. Parce que cette opération, nous en avons besoin par l'Esprit. C'est une opération des yeux, mais des yeux spirituels, afin, comme dit Paul, de considérer les autres comme au-dessus de nous-mêmes. Et comment voulez-vous voir les choses comme ça si on raisonne avec l'esprit du monde? Si on est charnel, si on n'est pas opéré des yeux, mais on verra les choses à l'envers, fatalement. Le deuxième point, c'est le combat contre la chair et l'esprit à partir du verset 16, où nous sommes ici au cœur d'un combat les plus puissants qui existent, c'est le combat contre nous-mêmes, parce que la chair nous sollicite constamment à nous opposer à la volonté de Dieu. En fait, la chair, ce principe est spirituel, c'est un principe qui tend à nous éloigner le plus possible des choses de Dieu, tandis que l'esprit nous pousse à nous préoccuper des choses de Dieu. Vous voyez, c'est un combat. C'est un combat dont il y a toujours un vainqueur. Et ce vainqueur, soit c'est la chair, soit c'est l'esprit. C'est un combat qui existe et il y a une opposition, il dit, verset 17, « La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés, ils se font la guerre, ils sont constamment en contradiction. » Alors, la chair, par exemple, va s'opposer à la prière. Si vous voulez passer un temps avec Dieu, immédiatement, la chair va réagir. « Mais non, tu perds ton temps. Pourquoi tu vas prier? Pourquoi tu pries? À quoi ça sert ?» Dieu ne répond pas. La chair immédiatement réagit quand vous voulez faire quelque chose pour Dieu. Il faut le savoir. La chair va vous pousser, par exemple, à... « Oui, tu veux prier, d'accord, mais regarde d'abord ton émission préférée et si tu as le temps, tu prieras après. » Elle va vouloir négocier. Elle va vouloir vous faire reculer sur vos bonnes résolutions. C'est pourquoi il faut être assez combatif et assez déterminé. La chair a un fruit. La chair se manifeste par des œuvres. La chair fuit la communion avec les chrétiens qui sont spirituels. Elle va s'associer avec les chrétiens qui sont charnels, forcément. Un proverbe dit « qui se ressemble, s'assemble ». La chair aime la chair. Donc, tous ceux qui vont raisonner de la même manière, ils vont être attirés les uns avec les autres. C'est comme ça. C'est une évidence. La chair s'oppose aussi à l'enseignement de la parole de Dieu. Elle le conteste, elle le remet en question. Elle ne l'accepte pas comme parole de Dieu. Elle conteste la parole. Par contre, la chair accepte un enseignement superficiel qui n'est pas profond, qui ne changera pas sa dimension, qui ne l'obligera pas à faire des efforts, mais qui adaptera en fait un compromis entre sa vision terrestre, humaine, et ce qui est demandé dans la parole. Et constamment, elle fera un compromis. Donc il faut nous poser aussi des questions et peut-être se demander, mais pourquoi aujourd'hui ma vie spirituelle est-elle devenue si fade? Pourquoi aujourd'hui ma vie spirituelle n'a pas l'enthousiasme, la ferveur qu'elle a connue autrefois? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que je n'ai plus le désir de prier, de lire la parole de Dieu? Je n'ai plus le désir d'écouter ce qui est enseigné? Ou je ne reçois plus? Ben, il y a un processus. Si on fait un bilan honnête, et si on regarde la manière dont nous vivons, c'est que plus nous nourrissons la chair, plus elle grandit, en fait. C'est un petit peu le principe. Plus on s'occupe des choses terrestres, charnelles, humaines, qui sont secondaires, finalement, plus elles vont prendre une proportion dans notre vie qui va prendre la première place. Et finalement, ça prend la place de Dieu. Et c'est pour ça que l'esprit est attristé et que l'esprit dit « Mais tu as perdu ton premier amour. Tu as perdu cette communion que tu avais autrefois avec Dieu. » Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quelqu'un d'autre a pris la place que Jésus avait. C'est la chair. La chair, elle est toujours en train de vouloir le siège d'honneur. Alors, si nous le reconnaissons honnêtement, eh bien, nous demandons pardon au Seigneur pour cela. Parce que le feu du premier amour, la chair l'a étouffé. La chair nous fait mourir à petit feu. la chair nous empêchera de chanter des cantiques de louange ou d'aimer adorer le Seigneur. Non, les choses de Dieu sont devenues pour nous secondaires. Quand la chair domine, ce n'est pas possible. La chair affectionnera toujours les choses de la chair. Alors j'ai trouvé un texte dans Romains 7 qui montre que la chair nous pousse à faire ce que l'on ne veut pas faire spirituellement. Romains 7, verset 19. « Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. » Voilà le problème. Je sais qu'il y a des choses bien, je sais qu'il y a certaines choses qu'il faut que je mette en place, mais le mal prend le dessus. Et le mal, il est inspiré par la chair. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Cette autre loi, c'est cette loi de la chair qui nous pousse à ne pas prier, à ne pas prendre plaisir à la loi de Dieu. Ce qui nous pousse à prendre plaisir à la loi de Dieu, c'est l'esprit. L'esprit qui nous pousse à aimer les autres, qui nous pousse à aimer la prière, à aimer sa présence. Mais la chair, c'est une autre loi qui est liée au péché, qui nous pousse à nous détester, à peut-être nous en vouloir, à avoir de la rancœur, à avoir des paroles mauvaises. Tout cela est inspiré directement de la chair. Alors, la chair va toujours montrer le côté attractif, futile des choses. C'est comme cela que finalement, il dit qu'elle me rend captif. On est prisonnier, on était libéré, hein, c'est pour la liberté que Christ nous a appelés, mais on est redevenu esclave, esclave de nous-mêmes, esclave de ce principe de la chair. Le troisième point, c'est donc au verset 19. On a maintenant Paul qui décrit précisément qu'est-ce que c'est que les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair sont la débauche, l'impureté, le dérèglement. Donc c'est le péché d'une manière évidente se manifeste dans la vie de celui qui marche par la chair. La chair aime le péché, la chair aime les interdits, la chair aime tout ce qui n'est pas permis, mais elle aime sa liberté avant tout. La chair agit surtout dans l'obscurité, parce qu'il y a cette pensée, quand nous sommes conduits par la chair, c'est que oh, personne ne le verra, personne ne le saura, alors que Dieu voit tout. C'est ce que pouvait penser David quand il a commis l'adultère. Personne ne le saura, personne ne le verra, mais Dieu a vu. La Bible dit que cela a déplu à l'Éternel. Cela déplut à l'Éternel. Ananias et Saphira qui avaient menti sur une certaine somme d'argent, personne ne le saura, personne ne le verra, mais cela a déplu à l'Éternel. Et ils ont été sanctionnés. Mais la chair, qu'est-ce qui a poussé David? Qu'est-ce qui a poussé Ananias et Saphira? Qu'est-ce qui a poussé Ève? Qu'est-ce qui nous pousse quand nous péchons? Eh bien, c'est la chair, ses désirs, la convoitise de la chair, comme dit Paul, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, toutes ces choses nous poussent au mal. Mais Dieu voit tout et la chair va produire son fruit. Comme Jésus dit, vous reconnaîtrez un arbre à ses fruits, eh bien, nous reconnaîtrons une personne charnelle aussi, à sa vie, à ses œuvres, à sa manière de se comporter, à ses paroles. Parce que Paul parle des conséquences finales, vous voyez, au verset 21. Il fait toute une liste du verset 19. Oui, il y a la débauche, l'impureté, le dérèglement, il continue. Et il dit, ceux qui font de telles choses, à la fin du verset 21, ils n'hériteront point le royaume de Dieu. Il y a des conséquences, vous voyez, à la vie selon la chair, c'est la mort. C'est la mort éternelle. Il le dit ailleurs. L'affection de la chair, c'est la mort, Romains 8, 6. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie. C'est-à-dire que si nous laissons la chair faire son travail, nous allons mourir spirituellement et nous éloigner de Dieu. Et je crois qu'il faut prendre cet avertissement au sérieux parce qu'il y va du salut de notre âme, il y va de notre communion avec Dieu, il y va de notre éternité finalement. C'est un combat sérieux, c'est un combat à la vie, à la mort. Soit c'est la chair qui gagne et c'est la perdition, soit c'est l'esprit qui domine et nous sommes gardés dans les voies de Dieu. Nous avons la vie éternelle, la vie en abondance. C'est un combat sérieux. Le quatrième élément, c'est maintenant, Paul explique qu'est-ce que c'est que le fruit de l'esprit, parce qu'il y a toujours le côté négatif, le côté positif. Il faut savoir de quel côté on se situe. Le côté négatif, c'est le fruit de la chair. Il dit les œuvres de la chair. On pourrait dire les fruits de la chair. Ce sont les péchés. Mais d'un autre côté, il parle du fruit de l'esprit. Et c'est ce qui doit nous préoccuper. Marcher par l'esprit va donc générer en nous un certain fruit. Et il le détaille au verset 22. D'abord, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est-à-dire que Dieu va mettre dans notre cœur de l'amour pour les autres, pour les frères, pour les sœurs, même pour les gens qu'on ne connaît pas. Quand on est proche du Seigneur, on aime les gens. Voilà, ça devient naturel. Ça devient quelque chose qui est en nous. On va commencer à aimer notre patron, par exemple. On va commencer à aimer notre collègue. Il n'est pas facile, mais gloire à Dieu, on l'aime quand même. Voilà. Et ça, c'est l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs. C'est une bénédiction, ça. La joie. Est-ce que nous avons la joie du Seigneur? La joie qui vient d'en haut. Il y a un homme qui s'appelle Démoché Carian qui a écrit un livre, « Les gens les plus heureux de la terre ». Il parle des chrétiens. Est-ce que ce matin, on peut dire qu'on est les gens les plus heureux de la terre? Ou alors, depuis que je suis chrétien, c'est dur. Hein. C'est dur, il y a des combats. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a des combats, mais est-ce qu'on ne peut pas avoir aussi la joie du Seigneur? La joie du Seigneur, c'est extraordinaire. Nous sommes les gens les plus heureux de la terre, mais il y en a. C'est comme si l'ennemi, parfois, nous vole notre joie. Et puis, on se plaint du temps. On se dit, aujourd'hui, il pleut, ça va mal. Et quand il fait trop chaud, qu'est-ce qu'on va dire? Oh, il fait trop chaud aujourd'hui. Et on se plaint pour toutes sortes de choses. Et puis, on ne manifeste pas notre joie, alors que nous l'avons. Nous l'avons, mais elle est un petit peu étouffée. Elle est un petit peu... contaminé par les soucis de la vie, tout cela. Mais mettons-les de côté et exprimons notre joie. Vous voyez Jésus, quand les disciples sont revenus de mission, les 70 disciples, ils avaient guéri des malades, il y avait des démons qui avaient été chassés en son nom. Et la Bible dit que Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Voilà. Il a exprimé cette vraie joie, cette joie simple que nous avons quand nous sommes chrétiens. Nous avons la joie, alors exprimons-la. Et bénissons le Seigneur pour cela, la joie, la paix. La paix, nous devons la conserver même dans les temps difficiles. Et le Seigneur a dit, je vous donne ma paix. Un jour, à la sortie du culte, il y a une sœur là, qui vient me voir, qui m'attrape par la veste et me dit, mais vous ne vous inquiétez pas? Mais je lui dis, mais m'inquiétez de quoi? Mais vous ne vous inquiétez, vous voyez pas les informations, tout ce qui se passe? Mais j'ai dit, si, mais la paix de Dieu surpasse toute intelligence, elle gardera vos cœurs et vos pensées. Ne vous inquiétez pas, frères et sœurs, parce que chaque jour, à chaque jour suffit sa peine. Et on ne peut pas porter tous les problèmes du monde. C'est trop lourd. Quelquefois, on me fait remarquer combien ça va mal dans le pays. Ça va très mal, il y a beaucoup de choses qui vont mal. Mais si on commence à porter tous les soucis qui existent, on va tous s'effondrer. Il faut qu'on apprenne à déposer. On a déjà pas mal à nous-mêmes, on a déjà pas mal de choses. Mais ce qui doit nous préoccuper, c'est comment on peut partager l'amour de Dieu, comment on peut témoigner à notre prochain. Parce que c'est ça les vrais, les véritables choses qui vont avoir un poids éternel. Vous savez, tous les problèmes qu'on vit aujourd'hui, dans 10 ans, ça sera autre chose. Dans 20 ans, il y en aura encore d'autres, si le Seigneur n'est pas revenu. Ça va passer tout ça. Mais si une âme est sauvée, son âme est sauvée pour l'éternité. Ça doit nous préoccuper, frères et sœurs. C'est le salut de nos contemporains. La patience. La patience. Ne faites pas comme cette sœur qui priait, « Seigneur, donne-moi la patience tout de suite. » Voilà. Comme si Dieu, hop, il nous transforme d'un coup de baguette magique. La patience, ça prend avec le temps. Moïse, combien d'années Moïse il a mis pour être l'homme le plus patient de la terre? 40 années, voyez. Donc on est en progression. Alors on devrait être un petit peu plus patient en 2017 qu'en 2016. On devrait grandir dans la patience. La bonté. Est-ce que vous aimez les jambons de Toulouse? Ils sont merveilleux, ils sont là ce matin. Vous êtes les jambons de Toulouse. Moi, j'aime les jambons de Toulouse. J'aime les jambons. Les jambons de Bayonne aussi. La bienveillance. Est-ce que vous faites preuve d'indulgence, par exemple, quand quelqu'un s'est trompé? Ou alors vous dites, celui-là, je ne vais pas le manquer. La prochaine fois qu'il ouvre la bouche, alors là. Il va l'avoir, hein, il va l'avoir. Ça, quand on est dur comme ça avec les autres, ça fait un effet boomerang. Il y a un pasteur qui me donnait cette illustration un jour, en me disant, il y en avait un qui était assez virulent, qui agressait un peu les gens comme ça. Il me dit, lui, c'est comme si il donne un coup de pied dans les portes du saloon, vous savez, les portes qui s'ouvrent comme ça, et puis ça lui revient en pleine figure à chaque fois. J'ai dit, c'est ça. Quand on est agressif avec les autres, eh bien, quelque part, on se prend aussi une volée de bois vert en retour. Donc, il nous faut apprendre ceci, c'est la bienveillance, c'est faire preuve d'indulgence. Et peut-être, on a besoin d'être indulgent avec nous, alors soyons indulgents avec les autres. Parce que nous-mêmes, on n'est pas parfaits. La foi, continue sur le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi. La foi, c'est la confiance simple. La confiance simple en Dieu. Est-ce que nous avons confiance en Dieu? Ou est-ce que quand nous prions, nous disons, ouais, mais de toute façon, Dieu ne répond pas, donc ça ne sert à rien. Si nous raisonnons comme cela, ça ne peut pas marcher. La foi. Faire confiance à Dieu, il agira en son temps. C'est vrai que des fois, Dieu n'agit pas instantanément, mais le temps appartient à Dieu, il va le faire en son temps. On lui fait confiance. La douceur. Est-ce que nous sommes des gens doux? Lorsque Laurence, mon épouse, était enceinte de notre premier enfant, j'ai dû apprendre à passer les dodanes avec douceur, surtout quand elle arrivait dans le huitième mois, là, il fallait faire très attention pour ne pas déclencher la venue du bébé trop tôt. Parce qu'avant, je passais les dodanes, paf, et la voiture... Hein. Alors, quand elle était enceinte, alors je faisais du 15 km/h et hop, et voilà. Et gloire à Dieu, notre enfant est né au bout de 9 mois, normalement, sans problème. Mais on apprend la douceur aussi. La douceur. Soyons doux. Faisons attention aux autres. Et la maîtrise de soi aussi. Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu as placé ce collègue à côté de moi, Seigneur? Si seulement tu pouvais faire en sorte qu'il soit renvoyé de mon équipe. Hein? Des fois, on prie comme ça, Seigneur. Éloigne-les. Et puis, le Seigneur permet qu'il reste. Mais parce que Dieu sait très bien que pour nous, il faut qu'on apprenne la maîtrise de soi. Seigneur, merci. Quelquefois, on me dit, mais si vous connaissiez mon mari, il est compliqué, il est compliqué. Un jour, j'ai dit que les femmes sont compliquées. Un jour, j'ai dit, on m'a dit, non, elles ne sont pas compliquées, elles sont complexes. J'ai dit, mais c'est quoi la différence entre compliqué et complexe? En fait, quand vous mettez un homme compliqué avec une femme complexe, ça fait souvent des étincelles. Mais on est tous un petit peu complexes, n'est-ce pas? On a tous, parce que les hommes, je ne sais pas si vous aviez remarqué, les sœurs, mais les hommes, ils raisonnent comme des hommes. C'est assez... Mais les femmes, elles raisonnent aussi comme les femmes. Et c'est pour ça qu'il y a cette tension, des fois cette tension d'incompréhension, mais pourquoi est-ce que les hommes, ils raisonnent comme des hommes? Parce que c'est des hommes. Et pourquoi les femmes, elles sont comme ça? Parce que c'est des femmes. Et il nous faut apprendre les différences et bénir le Seigneur pour la merveilleuse complémentarité, parce que si... On était tous pareils, ça serait drôlement catastrophique. Donc merci Seigneur pour les différences. Dieu a voulu utiliser des êtres aussi différents que l'homme et la femme pour former une famille. Mais c'est parce qu'il nous apprend à mieux nous comprendre, à mieux nous connaître. Il y a quelque temps, j'avais dit cette parole à l'église. Heureusement pour moi qu'il n'y a qu'une personne comme vous dans cette église. Et après j'ai dit, heureusement pour vous qu'il n'y a qu'une personne comme moi dans cette église. Et il y a un frère qui a rajouté, non, pas seulement dans cette église, sur toute la terre. Moi, j'ai dit, merci, ça m'a fait un petit coup quand même. Plus on va marcher par l'esprit, plus le fruit de l'esprit va se développer, et ça va durer jusqu'au bout de notre vie. Alors, frères et sœurs, on est en marche. Et je ne fais pas de politique. 1 Thessaloniciens 4.1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est cela ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard
de progrès en progrès. C'est comme ça qu'on est en... Nous, on est en marche, mais de progrès en progrès pour la gloire de Dieu. Et puis, la victoire par l'Esprit, c'est le dernier point, c'est le verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. Voilà comment nous devons traiter la chair, frères et sœurs. Nous devons la crucifier. Un pasteur me disait un jour, le plus grand ennemi pour moi-même, c'est moi-même. Et c'est vrai que la chair, elle a des pulsions, elle a des passions, elle a des désirs qui s'opposent à Dieu. Et si nous n'en triomphons pas, c'est elle qui va triompher de nous. Le combat est ainsi. Nous devons connaître les mécanismes de la chair et nous devons les combattre avec vigueur. Pas les combattre comme ça, du bout des lèvres, non. Regardez par exemple 1 Corinthiens 9, vous allez voir comme c'est ferme. Par exemple, Paul parle ici dans 1 Corinthiens 9, 26. « Moi donc, il dit, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite tendrement mon corps. Et je le laisse libre de faire tout ce qu'il veut, c'est ça ? Non, je le traite durement. Est-ce que nous le faisons, ça aussi ? Parce que ça, c'est le combat contre la chair. Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, afin, ou plutôt de peur, d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Parce qu'il sait qu'il y a un combat, il sait que la chair peut l'emmener aussi dans le péché, il sait qu'il peut être désapprouvé, même lui-même. Donc il y a un réel combat, mais qui est fort, qui est puissant. Et pour vaincre la chair, il n'y a pas d'autre méthode, c'est pas, il ne faut pas comprendre, il ne faut pas la douceur, il ne faut pas le compromis, mais Paul dit que c'est une crucifixion. Et l'inconvénient avec la crucifixion, c'est que ça fait mal. Ça fait mal. Mais pour vaincre la chair, ça fait mal. Ça fait mal à la chair. Ça, ça ne va pas lui faire plaisir du tout. La chair n'aime pas souffrir. Elle vous dira stop, elle vous dira demain. Elle vous dira non, pas aujourd'hui. Reste encore un peu tranquille. Profite encore un petit peu de tous tes plaisirs. Mais non, si vous êtes ferme, si vous êtes résolu, vous allez crucifier la chair. Vous dire, ce n'est pas la chair qui conduit ma vie, c'est l'esprit qui conduit ma vie. Donc c'est l'esprit qui aura le dernier mot dans ma vie. Et ça, c'est pour notre bien. Dans cette guerre, soit vous crucifiez la chair, soit vous êtes crucifié par la chair. Il n'y a pas de neutralité. C'est le seul domaine dans lequel on se doit d'être impitoyable, impitoyable dans le combat contre la chair. Les passions vont vous solliciter, mais qu'est-ce qu'on va répondre ? Ben, vous pouvez dire, ben, moi je n'ai pas besoin de vous. Moi je n'ai pas besoin de ces passions, de ces vices, parce que je suis libre, parce que je suis heureux avec Christ, je n'ai pas besoin de toutes ces choses que vous me proposez. Moi, je suis heureux avec la parole, je suis heureux avec le Seigneur, avec son esprit, et je ne veux pas perdre les bénédictions qu'il m'a accordées. Et si on est ferme, si on est résolu, alors on remportera de belles victoires. Pierre dit, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à votre âme. » S'abstenir de ces convoitises, leur dire « Non, je n'ai pas besoin de vous, je ne serai pas plus heureux avec vous. » C'est encore un mensonge, un leurre du diable. On va prier quelques instants. On a partagé sur la chair contre l'esprit. Je pense qu'il y a des résolutions qu'il nous faut prendre chacun. C'est un grand combat. Il y aura toujours un vainqueur dans ce combat. Soit c'est l'esprit qui triomphe, soit c'est la chair. Certains Corinthiens ne l'avaient pas tout à fait bien réalisé parce que Paul leur dit « Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé, mais comme à des hommes charnels, à des enfants en Christ. » En fait, ils ne pouvaient se nourrir encore que de lait, pas de nourriture solide. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des jalousies, il y avait des disputes. En fait, c'était comme si l'homme charnel avait pris le dessus sur l'homme spirituel dans leur cas de figure. Et donc, ça se manifestait par des rivalités. Ils se disputaient, ils étaient aigres les uns envers les autres. Vous voyez ? Si on marche selon la chair, on aboutira toujours à ces problèmes-là. Mais Dieu veut nous libérer de ces choses. Merci Seigneur encore pour ta parole. Nous savons que tu es à l'œuvre parce que tu es un Dieu de victoire, tu es un Dieu puissant contre toute œuvre de l'adversaire. Et nous voulons prier Seigneur pour que nous soyons réellement libres, libérés des chaînes du péché, de l'esclavage de Satan. Merci Seigneur de bénir notre Église, de permettre que nous grandissions dans cette vie de l'Esprit, dans cette communion avec toi, en étant fermes contre les puissances de la chair, contre ce qui nous pousse à dire du mal, à penser de la mauvaise manière, à voir les choses qui ne sont pas de ta pensée, Seigneur. Nous voulons crucifier la chair comme ta parole nous l'enseigne, être sans pitié et dire « Oui, Seigneur, tu triomphes de nous-mêmes, prends la première place dans notre cœur et nous voulons te laisser toute la place. Oui, Seigneur, nous sommes devant ta face. » Je laisse quelques instants devant le Seigneur pour prier vous-même dans votre cœur, demander au Seigneur de faire son œuvre dans votre vie pour qu'il y ait des libérations par le Saint-Esprit maintenant. Ô Seigneur, fais une œuvre grande et belle, Seigneur. Ô que ton nom soit béni, Seigneur, pour la libération qu'il y a dans ta présence, pour la victoire qu'il y a sur le péché, Seigneur, pour la victoire qu'il y a sur la chair et ses désirs, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te disons merci, Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, gloire au Seigneur.